Donc nous célébrons aujourd'hui un dimanche qui n'est pas un dimanche. L'aspect de résurrection qui est habituellement le thème du dimanche, c'était hier pour la résurrection de Lazare. Et aujourd'hui, c'est un dimanche comme jour de semaine, si vous voulez, mais ça n'a pas les caractéristiques de la résurrection. Il faut attendre maintenant, il faut attendre dimanche prochain, le jour de Pâques, pour célébrer la résurrection. Je constate avec satisfaction que la plupart d'entre vous, vous avez un rameau dans les mains, pas tout de suite pendant le repas, mais enfin, vous associant ainsi aux enfants d'Israël qui acclamaient triomphalement le Christ avec leurs rameaux. Symboliquement, plus que symboliquement, mystiquement, j'allais dire, le fait de porter les rameaux nous associe à eux et nous unit à eux. Nous sommes en communion de cette manière-là. Et quand on ne porte pas de rameaux, c'est qu'on s'associe à ce moment-là avec les grands prêtres et tous ceux qui étaient jaloux et qui râlaient et qui refusaient le Christ, qui renoncent à l'accueillir et qui ont fait toutes les difficultés que l'on connaît après pour sa passion. D'où l'importance d'avoir les rameaux. Et je constate aussi avec satisfaction que la plupart d'entre vous, vous les portez triomphalement et non pas, comme je vous dis souvent, hein, comme des cache-sexes ou au bout de la main, comme ça, comme si vous aviez un balai. Nous reconnaissons aussi en Christ la gloire de Dieu qui se manifeste parmi les hommes. Donc, avec exaltation, on montre cette gloire. Et ceci n'est pas une invention personnelle, c'est ce que nous avons dit et lu à plusieurs reprises pendant les offices, et notamment au moment même de la bénédiction. Des rameaux, où on prenait les rameaux comme symbole, signe de la victoire, évidemment, victoire de la vie éternelle sur la mort, de victoire du Christ qui vient nous apporter la résurrection et la vie éternelle. En entrant, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, quand même un bon nombre d'entre vous, à ma connaissance, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous situez de l'autre côté, le temple de Jérusalem, la vallée du Cédron. De l'autre côté, le mont des Oliviers, avec tout à fait au sommet le lieu où le Christ s'était élevé pour son ascension. Et au-delà de ce lieu d'ascension, les deux villages de Béthanie et de Bethphagé, qui sont maintenant coupés de Jérusalem par le mur de la honte que l'on ne peut pas franchir, sauf à faire je ne sais combien de kilomètres pour y arriver. Mais à cette époque-là, non seulement c'était moins construit, à l'époque du Christ, non seulement c'était moins construit, mais il n'y avait pas les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, quoique les Romains avaient envahi le pays et le dominé, aux grandes dames d'ailleurs des Juifs, qui quelquefois savait s'en accommoder. Et donc le Christ, après avoir ressuscité Lazare à Béthanie, monte sur l'anon trouvé à Bethphagé et descend à Jérusalem, traverse le Cédron. Il a traversé le Cédron pour reprendre, récapituler en lui tous les passages de fleuve ou de mer. Avant d'arriver à sa mort et sa résurrection, Dans quelques jours, le Seigneur passe le Cédron comme Moïse et le peuple hébreu avaient passé la mer Rouge, comme Jésus, fils de Navé, avait passé le Jourdain et d'autres encore à plusieurs reprises, et vous aussi pour plusieurs d'entre vous. Ce que nous représentons d'ailleurs, ce que nous faisons d'ailleurs dans le baptême, qui récapitule pour chacun d'entre nous tous ces événements-là en leur donnant la pleine signification du passage dans les eaux des eaux de mort qui deviennent des eaux de vie, pas de l'eau de vie, hein, des eaux de vie qui nous fait passer de l'autre côté, donc dans la vie éternelle. Et juché sur un ânon et non pas sur un cheval, le Seigneur montre son humilité. Humilité qu'il manifeste de cette manière-là, humilité qui culmine essentiellement en devenant homme. Que Dieu se fasse homme, ça c'est la plus grande humilité qui soit, et c'est cette humilité-là qui scandalise tellement de monde et qui scandalise tellement le monde. On a du mal à comprendre que Dieu, quand on essaie de comprendre qui peut être Dieu, que Dieu se soit fait homme et se soit présenté obéissant aux hommes jusqu'à mourir sur la croix. Beaucoup se posent la question, peut-il être un Dieu ? Et nous savons que oui, c'est cette humilité justement qui manifeste sa gloire. Et en passant, juché sur son ânon, il entre dans le temple de Jérusalem et accomplit de cette manière-là les rites ou le rite d'intronisation des rois d'Israël. Quand les rois d'Israël étaient intronisés, ils entraient dans le temple et allaient embrasser les cornes, c'est-à-dire les angles de l'autel. Et le Christ, ce jour-là, est acclamé comme roi d'Israël. Les Hébreux le reconnaissent momentanément comme roi d'Israël, comme roi attendant certainement que ce soit un roi qui vienne restaurer la royauté politique, si je puis dire, alors que le Seigneur refuse cette forme de royauté. La royauté est une royauté spirituelle et éternelle sur le monde entier, sur le cosmos tout entier, et pas simplement sur le peuple d'Israël. Mais en entrant comme ça dans le temple, il montre lui-même qu'il est effectivement ce roi d'Israël et ce roi de toutes les nations. Pendant cette entrée triomphale, l'Évangile nous dit que les Hébreux prennent des branchages, des rameaux, l'acclament avec des rameaux, en font un tapis par terre et jettent leurs vêtements sur le sol et sur l'âne pour servir de coussin ou de sel, si vous voulez, au Christ. Quand nous lisons je vais revenir à ça. Lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons des épisodes historiques, mais avec une portée éternelle. C'est pas simplement des passages de l'histoire. Il y a une signification, il y a une réalité qui dépasse l'histoire. Parce que celui qui a accompli tout cela, le Christ, est à la fois Dieu et à la fois homme. Donc ses activités humaines sont aussi des activités divines. Il faut toujours voir les deux niveaux de cette révélation. Et dans le récit de l'Évangile, je reviens à ce que je disais précédemment, vous voyez l'aspect humain, de l'aspect historique de ces enfants en liesse, de ces hommes en liesse qui acclament le Seigneur, qui spontanément font un tapis de verdure et de vêtements sous les pattes de l'âne, acclamé par les apôtres et les disciples qui devaient chauffer la foule très probablement en même temps, puisqu'ils reconnaissaient qui était le Christ. Mais ceci a une portée aussi pour nous. Ce n'est pas simplement, comme je disais, un événement historique passé. C'est aussi notre histoire. C'est ce que nous vivons aussi. C'est la raison pour laquelle, je vais commencer par ça, nous portons nous-mêmes les, des rameaux pour nous associer, pour être en communion avec eux. Il n'y a qu'un Christ. Ceci est arrivé une seule fois dans l'histoire, mais mystiquement, si je puis dire, sacramentellement, il nous est donné par la foi, par la vie de l'Église, et il nous est donné de faire comme un flashback, si vous voulez, de revenir, de participer réellement, pas simplement par l'imagination ou par le souvenir, mais d'une manière réelle, mais à un niveau profond, plus profond de notre existence que le niveau purement humain ou historique, il nous est donné de participer à un événement passé. Et nous sommes donc aujourd'hui en communion avec ces Hébreux qui acclament le roi de la gloire. Mais comment, à part avec les rameaux, comment faire, comment participer à leur liesse? Pas forcément en enlevant nos manteaux. Et pour les mettre sous les pattes de je ne sais quel âne, les vêtements des Hébreux signifient leur couverture, quelque chose de leur peau, si vous voulez. C'est quelque chose d'eux-mêmes qu'ils offrent au Seigneur. Et pour nous-mêmes qui venons 20 siècles après, mais qui participons au même mystère, les manteaux symbolisent en quelque sorte quelque chose dont nous pouvons et devons nous dépouiller pour offrir au Seigneur. Et de quoi pouvons-nous nous dépouiller, sinon de nos passions, si vous voulez, de nos péchés, autrement dit, de notre égoïsme, de notre volonté propre, de notre enfermement sur nous-mêmes. Et en œuvrant ainsi dans ce que nous appelons la vie ascétique, dans notre effort de conversion, nous participons, nous collaborons au même dépouillement et à la même allégresse que les enfants des Hébreux. Et si nous voulons vivre réellement, pas simplement comme des rites, comme des obligations légales, ou parce que c'est les rameaux, il faut aller à l'église, si nous voulons vraiment vivre mystiquement avec le Christ, il convient aussi que nous travaillions justement à nous dépouiller de nos vêtements, à dépouiller de ce que nous avons en surplus pour l'offrir au Seigneur et ainsi chanter sa gloire. Bien que nous ne l'avons pas lu dans l'Évangile aujourd'hui, alors que le Christ est entré dans le temple, il chasse, si vous lisez la suite de l'Évangile, il verrait qu'il chasse les vendeurs du temple. Il renverse les tables de change, il renverse les mules qui couvrent les poules ou les poulets pour les sacrifices, etc. Il bouleverse le temple. Pas le temple, mais ce qu'il y a d'humain dans le temple, en disant « ma maison sera appelée une maison de prière ». Et vous en faites un refuge de brigands, un lieu de commerce. Et en accomplissant cela, le Christ se présente dans le temple comme celui qui vient annuler, qui vient arrêter le lieu, le temple même, comme lieu de la présence de Dieu. Il dit d'ailleurs que le temple, en 3 jours, détruisez-le, en 3 jours, je le rebâtirai. Et en disant cela, il évoque son propre corps, C'est le à partir du de la de l'incarnation, dans l'incarnation, le lieu de la présence de Dieu dans le monde, c'est le Christ. C'est le corps du Christ. Ce n'est plus le temple, c'est ce qui nous permet, nous, d'adorer le Christ en vérité, en dehors de Jérusalem, là où nous sommes. Parce que le Christ, on peut participer à sa vie, où que nous soyons. Et donc, dans cet événement que l'on célèbre aujourd'hui, on manifeste déjà aujourd'hui, en attendant ce qui va se réaliser en plénitude et visiblement au moment de Pâques, cette substitution par le Christ du temple, de l'ancien lieu où on pouvait adorer Dieu. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette fête-là, si vous voulez, les événements que l'on va historiquement découper pendant cette semaine sainte, trois premiers jours d'abord, puis le grand jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ces événements-là, en fait, n'en font qu'un. Dans l'Église primitive, il y avait 3 jours de jeûne absolu, et qui est déterminé par un repas eucharistique. Et ces 3 jours montraient la réalité de la mort résurrectionnelle, la mort et résurrection. Maintenant, dans la semaine sainte, on découpe les événements. Il y a un jour on célèbre la Sainte Cène, un jour on célèbre la mort du Christ et un jour on célèbre sa résurrection. Alors qu'il faut comprendre, il faut entrer dans ce mystère comme un seul mystère, un mystère vraiment pascal, c'est-à-dire un passage de la mort à la vie éternelle, de la mort à la résurrection. Et déjà, cette fête d'aujourd'hui nous y conduit, nous y mène et nous introduit dans ce mystère. C'est même, si vous n'avez pas de vacances pendant ces premiers jours, ou même pendant toute la semaine, parce que les vacances ne sont pas calées en fonction des rythmes liturgiques, et même si vous devez plancher dans vos travaux, dans vos devoirs, et vous pouvez aussi vous associer avec toute l'Église à ce mystère-là, et si vous ne vous privez pas de l'Église par volonté, parce que ça ne vous intéresse pas, mais que parce que vous ne pouvez pas y être présent physiquement, sachez que vous pouvez être en pleine communion avec le même mystère et que vous recevez la même grâce que ceux qui ont la chance de pouvoir participer aux offices. Notre salut n'est pas un salut individuel, c'est un salut qui est personnel, certes, mais qui est partagé entre tous. Et nous sommes tous des membres différents d'un même corps, le corps du Christ, et ce que la réalité que les uns vivent ou expérimentent est la même réalité que d'autres, d'une autre manière, expérimentent, quelquefois moins richement, si l'on peut dire, et ça, mais c'est quand même la même vie. Donc pour tous, je vous souhaite une bonne semaine sainte. N'ayez pas peur de la fatigue que ça occasionne. Pour beaucoup d'entre nous, aborder la semaine sainte, c'est un défi. Comment on va faire pour tenir dans toute cette fatigue? Mais l'expérience montre d'année en année que l'Esprit Saint est présent et nous donne au fur et à mesure la force. Et quand la semaine sainte est passée, on est même étonné de la rapidité et de la légèreté avec laquelle elle est passée. Donc, bonne résurrection par avance.